Galates au chapitre 5 au verset 22, vous savez que nous sommes dans une étude de l'équilibre de la foi depuis plusieurs dimanches. C'est vrai que c'est entrecoupé par des visiteurs comme Philippe Kerel qui était venu il y a quelques semaines, notre frère Daniel Janella aussi qui nous a parlé de la mission la semaine dernière. Mais c'est bien qu'on puisse continuer à étudier ce que le Seigneur veut nous apprendre au travers de ce texte. Alors il y a toutes sortes de vertus qu'on a déjà vues. Et c'est intéressant de voir celle dont il est question ce matin. L'équilibre de la foi. Ce matin, nous allons parler de la maîtrise de soi. Et nous voyons que dans la Bible, c'est quelque chose qui est présent. Dans Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ou on pourrait redire la maîtrise de soi. La question qui se pose, c'est est-ce que nous avons besoin de maîtrise de nous-mêmes? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que j'en ai besoin? Moi, je peux répondre oui. Est-ce que vous en avez besoin? Ça, c'est chacun qui répond pour soi, bien sûr. Mais je crois que c'est un thème qui est important dans l'époque dans laquelle on est, parce que déjà la Bible nous avertit de quelque chose. Si on lit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, il est dit, sache que dans les derniers jours, c'est les jours où nous sommes, il y aura des temps difficiles. Il y a tout un listing de choses qui sont difficiles. Les hommes seront ceci et cela, mais il est au milieu de cette liste longue, il est dit, ils seront intempérants. Ils ne seront pas maîtres d'eux-mêmes. Ils se laisseront aller. Ils ne pourront pas s'empêcher de faire certaines choses. Est-ce que vous voyez une belle description de notre monde d'aujourd'hui? Eh bien oui. Et ça serait intéressant d'étudier tout ce qu'il y a autour des autres qualificatifs. Mais ce matin, on s'arrête sur la tempérance, sur la maîtrise de soi. Alors, on pourrait prendre d'autres mots, le fait de la retenue, le self-control, pour être plus moderne. Littéralement, c'est question de l'autorité intérieure. L'autorité, c'est le mot qui a donné crassie, autocratie ou théocratie, l'autorité qui vient de Dieu. Et là, c'est En kratos, alors excusez-moi pour les mots barbares du grec, mais ça veut dire à l'intérieur la domination. Ça veut dire que je deviens maître de moi-même, de ce qui se passe au-dedans. Littéralement, on pourrait le dire comme ça, de manière simple, la maîtrise de soi, c'est la puissance sous contrôle. Dans notre être, dans notre cœur, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener beaucoup de bénédictions par la grâce de Dieu. Quand il s'est pas entre les mains de Dieu, ben ça peut faire aussi beaucoup de mal. C'est ce qu'il a été dit par Adhémar, qui a rappelé que de notre cœur peut sortir toutes sortes de choses mauvaises. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, que deviennent les meurtres, que deviennent les adultères, que deviennent tout ça. Tout ça, ça vient du cœur. Mais par la grâce de Dieu, par la transformation que Dieu fait de notre cœur, Dieu va produire la vie, mais cette vie doit être sous contrôle. On est d'accord pour dire que l'eau, c'est quelque chose de bon, mais il faut que ça soit canalisé pour que ça soit quelque chose de bon. Parce que quand on a des inondations, quand il y a un trop-plein, quand c'est donné en sans retenue, eh bien, ça peut faire beaucoup de mal aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les informations dans certaines villes où on voit les voitures qui sont carrément descendues dans des endroits où on se demande comment elles sont arrivées là, mais c'est la puissance de l'eau qui n'était plus canalisée. Tant qu'elle est canalisée, l'eau apporte la vie. Et c'est la même chose pour la vie intérieure, c'est la même chose pour la foi. Avec la foi, on peut faire beaucoup de bien, mais si on ne la canalise pas par la maîtrise de soi, on peut faire aussi beaucoup de mal. Et le Seigneur nous invite à être de ceux qui ne sont pas comme les personnes dans les temps difficiles, intempérants, mais qui sont remplis de son esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Merci Seigneur, parce que s'il n'y avait pas son aide, alors on serait tellement embêtés. À un moment donné, Jésus s'adresse aux pharisiens, Jésus s'adresse aux scribes, on pourrait dire aux pasteurs de son époque, et il leur fait des reproches assez sévères. Il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et pleins d'intempérance. Ces personnes, ils avaient un beau costard-cravate. Ces personnes, ils avaient une belle prestance. Ils avaient de bonnes paroles, en public en tout cas. Mais après, dans leur cœur, il y avait de manque de maîtrise d'eux-mêmes. Et il y avait sûrement de toutes sortes de choses mauvaises, des pensées mauvaises. Il y avait de la méchanceté, il y avait l'orgueil, il y avait la jalousie. On le voit quand ils s'adressent à Jésus. Tout ça ressort. Le Seigneur nous invite à pas faire de la maîtrise de nous-mêmes quelque chose à pas le faire supplanter par l'apparence extérieure, mais à vraiment que ça soit le fond de notre être. Être maître de nous-mêmes. La foi équilibrée, en tout cas, elle est maître d'elle-même. Et c'est vraiment un danger que de montrer une apparence aux hommes et de laisser dans notre cœur faire toutes sortes de choses. Alors, on va se contrôler le dimanche matin, on va se tenir bien, et le reste de la semaine, notre cœur, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est pas la maîtrise de soi. Et ça, c'est pas le fruit du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit veut nous aider, veut nous transformer pour que nous soyons maîtres de nous-mêmes et dans toutes sortes de domaines différents. Dans la Bible, quand on l'étudie en détail, on se rend compte que ça touche nos pensées, ça touche nos paroles, ça touche nos actes, la pratique. En pensée, par exemple, il est dit, ce verset qu'on connaît bien, « Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Est-ce que Dieu nous met un commandement pesant sur les épaules en nous disant « Il faut que vous pensiez comme ça » Ou est-ce que c'est pas simplement le fruit, le résultat de la présence du Saint-Esprit en nous qui va nous permettre de vivre cela? Mais ça nous donne quand même un cadre, ça nous permet que cette vie intérieure soit cadrée, et c'est comme un père qui veut que ses enfants soient dans de bonnes conditions. Dieu sait très bien que si c'est le contraire qui se passe, si dans nos pensées il y a tout l'inverse de ce qu'on vient de lire, alors il ne va pas nous arriver de bonnes choses. Vous le faites des fois d'inverser les versets? C'est un bon exercice. Ce verset, il est positif. Il nous dit, attention, que tout ce qui est vrai, honorable, soit l'objet de vos pensées, etc. Mais vous avez pris le temps de l'inverser. Je l'ai fait pour vous. Que tout ce qui est faux, que tout ce qui est honteux, mauvais, impur, désagréable, décevant, vicieux et méprisable, ne soit pas l'objet de vos pensées. C'est clair quand même. Ça nous amène à réfléchir. Parfois, on laisse des choses dans notre cœur, mais Dieu sait très bien que si on laisse ce genre de choses, des choses décevantes, désagréables, des pensées négatives comme ça, nous imprégner continuellement, ce qui va être sorti, le jus qui va sortir quand on va être pressé, ben c'est que des choses négatives, obligatoirement. Mais si c'est le Saint-Esprit qui nous imprègne, si c'est la présence de Dieu, si c'est la parole de Dieu qui est là dans notre corps et qui nous permet de tenir bon dans les difficultés, ce qui va en ressortir, ça va être la grâce de Dieu. Dieu veut que nos pensées, nous puissions en être maîtres. Que cela soit l'objet de vos pensées. Dieu sait très bien comment fonctionne l'être humain. Il sait que les premières pensées, on ne les contrôle pas. Mais on contrôle les pensées qui restent, qui demeurent. Vous le savez ça? Parfois, il y a une pensée qui nous traverse. Il peut y avoir toutes sortes de pensées. Moi, ça m'est arrivé dans des moments où j'étais très bien, à tout point de vue, d'avoir des pensées de suicide. Mais juste une pensée, je veux dire. Totalement folle. Qui avait aucun fondement de quoi que ce soit. Mais je peux me dire, mince, m'embêter avec cela et passer ma vie à pleurer, à demander la délivrance, ou alors simplement dire, je refuse cette pensée. Je veux saisir la vie de Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Dans toutes les choses qui peuvent passer par notre esprit, l'ennemi, il est malin parce qu'il inocule son venin et il commence dans notre cœur, dans nos pensées. Il nous envoie toutes sortes de choses, mais on est libre de lui résister. Si on lui résiste fermement, alors il fuira loin de nous, nous dit la parole de Dieu. Dieu nous invite aussi à être maître de nous-mêmes dans nos paroles. Jacques 1, 26 nous dit, si quelqu'un croit être religieux, dans le bon sens du terme, mais sans tenir sa langue en bride, Mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Autrement dit, la foi de quelqu'un qui ne maîtrise pas ses paroles est vaine et inutile. Est-ce que vous êtes toujours maître de vos paroles? Alors on a du travail, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui montre notre foi. Quelqu'un qui ne maîtrise pas ses paroles, quelqu'un qui dit toutes sortes de choses pour ne rien dire finalement, il a besoin de revenir à Dieu un peu plus et de laisser le Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit nous donne de parler, laissez-moi vous dire que c'est des bonnes paroles, des paroles assaisonnées de sel, pleines de grâce, qui amènent une bénédiction sur les personnes qui nous écoutent. Quand Jésus a envoyé les disciples, on en parlait encore vendredi, et il leur a dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ». Quand on vous amènera pour vous livrer, quand vous serez devant les rois, les magistrats, les personnes qui ont de l'autorité, ne vous inquiétez pas. C'était des pêcheurs, c'était des gens du peuple, ils savaient pas trop parler. Mais il leur a dit surtout, n'ayez aucune crainte. Le Saint-Esprit vous donnera exactement les mots qu'il faudra dire à ce moment-là. Ça vous arrive pas des fois d'être en difficulté quand vous parlez à quelqu'un de votre foi? C'est jamais arrivé? Ça nous arrive toujours. Mais quand le Saint-Esprit est là et qui nous aide, on pense à quelque chose, on le dit, et le Seigneur convainc la personne par rapport à ce qu'on vient de dire, parce qu'on lui a demandé son secours et le Seigneur nous aide. La foi doit se manifester par une bouche qui est maîtrisée. Et justement, dans Jacques, il continue, il a même un chapitre presque entier qui parle de la langue et des dégâts qu'on peut faire avec la langue. Mais il y a un parallèle qui est donné dans le chapitre 3 et le verset 7 de Jacques. Il est question des espèces et des bêtes d'oiseaux, des reptiles, d'animaux marins qui sont domptés, qui ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Oui, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et là, il est dressé le portrait, j'y arrive, dressé le portrait de quelqu'un qui ne compte que sur ses forces à lui. Alors oui, la langue va le dompter, la langue va être quelque chose qui va faire beaucoup de mal, mais si c'est quelqu'un qui a laissé le Saint-Esprit habiter en lui, si c'est quelqu'un qui a accepté la présence de Jésus dans sa vie, alors les paroles qui vont sortir vont être totalement différentes. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, ça veut dire aussi, il faut que nous soyons capables de maîtriser notre bouche, que nous soyons capables de dire les paroles qui viennent de la part du Seigneur. La foi, ce n'est pas une liste d'interdictions. On pourrait confondre la maîtrise de soi avec plein de choses qu'il faut se discipliner à faire avec rigueur, avec contradiction, hein, parce que c'est vraiment, on lutte contre nous-mêmes. Alors c'est vrai qu'il y a un combat de la chair, entre la chair et l'esprit, mais la foi, c'est la puissance sous contrôle. La puissance qui nous permet de nous maîtriser. Il y avait un pasteur que je connais bien qui parlait avec un ami non-croyant. Et le monsieur donc non-croyant, comme il savait qu'il était pasteur, il le titillait un peu sur ce sujet. Et donc il lui disait, moi je ne veux pas devenir comme vous les chrétiens parce que vous êtes, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus faire. Par exemple, vous n'avez plus le droit de fumer. Dieu vous interdit de fumer. Alors le pasteur lui dit, non, c'est pas vrai. Alors, est-ce qu'on a le droit de fumer ou est-ce qu'on n'a pas le droit de fumer? Personne n'ose répondre là. Est-ce que Dieu nous interdit de fumer? Dieu nous oblige à rien faire en fait. C'est ça, incroyable. Est-ce que Dieu vous a obligé à vous repentir? Pourtant, est-ce qu'il faut se repentir? Vous voyez la nuance. Bien sûr que Dieu n'est pas pour, mais Dieu ne nous oblige jamais à faire quoi que ce soit sur cette terre. Que ça soit bien ou que ça soit mal. Par contre, il nous conseille fortement de choisir le bien, de nous attacher au bien. Et quand son esprit habite en nous, alors il y a ce désir de faire le bien. Et donc cet homme, ce pasteur, il raconte ceci. Ce n'est pas que Dieu m'oblige à ne plus fumer, mais sans la foi, avant que je sois chrétien et même pasteur, ben j'étais accro à la cigarette, j'arrivais pas à m'en sortir. Mais parce que j'ai la foi, maintenant j'ai la puissance pour dire non à la cigarette. Et vous, au fait, où c'est que vous en êtes ? Ah mais moi, c'est impossible que j'arrête. Moi, je suis totalement accro, je ne sais pas comment m'en sortir. Et cet homme a reconnu que finalement, la foi, ce n'est pas une montagne d'obligations dans lesquelles il faut rentrer, essayer de s'efforcer toute sa vie, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la force. Dieu va nous donner un cœur nouveau qui va nous permettre de suivre ses ordonnances. C'est ce qu'il est rappelé, ce cœur de chair, plutôt que le cœur de pierre. Le cœur de chair permet de mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous invite à faire. Quand le Saint-Esprit maîtrise ma vie, la force qu'il me donne maîtrise mon cœur. Vous voulez être maître de vous-même? Alors laissez l'Esprit de Dieu habiter en vous. De plus en plus, par le moyen de la prière, de la parole, par le moyen de la communion fraternelle, toutes sortes de moyens qui nous sont donnés, mais c'est ainsi que le Saint-Esprit prend le contrôle de notre vie. On a l'impression des fois quand on donne le contrôle du Saint-Esprit quand on donne le contrôle de notre vie au Saint-Esprit, qu'on va y perdre beaucoup. Et des fois, ça nous fait peur. Mais quand on le fait, alors on gagne tellement parce que le Seigneur nous donne une force de faire ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Par la foi, laissons le Saint-Esprit nous donner cette force-là. Ça, c'est la maîtrise de soi. Et il y a un homme dans la parole de Dieu qui représente bien l'équilibre, parce que j'ai parlé de la maîtrise de soi, mais si on considère la maîtrise de soi toute seule, alors ça peut être dangereux, Parce que quelqu'un qui va être trop maître de lui-même va avoir tendance à ne rien faire. Tellement il est concentré à essayer que rien de mauvais ne sorte, qu'il va oublier de faire aussi les choses bonnes qu'il faut faire. Et la maîtrise de soi doit être équilibrée avec l'ardeur à agir pour le Seigneur. Il y a un homme qui représente bien ça, c'est Samson. Samson, tant qu'il dominait sur lui-même, tant qu'il obéissait aux recommandations que Dieu avait fait sur sa vie, alors la force de Dieu était sur lui. Mais petit à petit, il a laissé les choses de la terre prendre le dessus sur son cœur, sur son engagement envers Dieu. Et vous savez l'histoire, qu'à un moment donné, Dieu a été patient, Dieu a été très patient avec Samson, mais à un moment donné, sa force l'a abandonné. Et c'est ce qui se passe quand on n'est plus maître de nous-mêmes, quand on ne veille pas sur notre cœur, la force de Dieu, elle est là, elle est toujours présente pour celui qui veille, mais pour celui qui ne fait pas attention, il risque d'être déçu. On peut lire rapidement dans Juges au chapitre 13, juste le commencement de l'histoire de Samson, ça commence avec ses parents d'ailleurs. On va juste lire l'histoire avec sa maman et l'ange qui lui annonce une bonne nouvelle. Juges chapitre 13 verset 1er et la fin du chapitre 13 également. Juges 13 verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. » Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. On va aller au verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'animer à Makanédan entre Tsoréa et Eschataol. Amen. On voit quelque chose qui est là, associé entre déjà d'un côté les recommandations que Samson il avait sur sa vie, qui commençait par sa maman qui le portait dans son ventre, cette femme qui était là stérile et qui sûrement cherchait le Seigneur, demandait au Seigneur d'intervenir, en plus dans un contexte où les Philistins, les ennemis d'Israël étaient là pour faire du mal, cette femme a entendu, elle a vu même Dieu exaucer sa prière. Et vous savez ce que signifie Samson ? Les plus anciens doivent le savoir peut-être. Samson, ça signifie petit soleil. Cette femme se disait sûrement, Seigneur, que ce petit soleil vienne éclairer ce pays d'Israël qui a besoin de délivrance et que les ténèbres qui se sont installées à cause des Philistins puissent être dissipées grâce à ce petit soleil que tu nous as donné. Mais on se rend compte, si on fait le parallèle avec le soleil c'est une chose bénéfique, mais qui a besoin lui aussi d'être canalisé. Si le soleil était plus près de la terre de quelques centaines de kilomètres, la terre serait un désert. La terre serait comme le Sahara sur toute la surface. L'eau serait évaporée, il n'y aurait plus de vie. Si le soleil il était plus loin de la terre qu'il ne l'est actuellement, ben la terre serait pleine de glace, comme l'Antarctique, mais partout sur la terre. Et la même chose, il n'y aurait pas de vie. Parce que le soleil est à sa juste place, il y a la vie, il y a la lumière, il y a tout ce qui est entraîné par cela sur la terre. Et Samson, il était dans le même cas, ce petit soleil, il avait besoin d'être dans un cadre pour apporter la bénédiction. La maîtrise de nous-mêmes nous permet d'être dans un bon cadre pour apporter le maximum de bénédiction à nous-mêmes, à ceux qui nous entourent, notre famille, et puis toutes les autres personnes aussi. Mais si on choisit de s'écarter, de s'éloigner petit à petit de ces cadres que le Seigneur a mis pour nous faire du bien, alors c'est dangereux. Le soleil qui brûle ou le soleil qui est trop loin et qui glace. Et c'est ce qui peut se passer par nos vies. L'être humain, il est rempli de désirs pour beaucoup et beaucoup de choses. Mais tant que ce désir ne le détourne pas de Dieu, c'est pas mauvais. Mais quand le désir prend la place de Dieu, ça devient dangereux. Et Samson, si on lit l'histoire, on n'a pas le temps ce matin, si on lit l'histoire de Samson, on se rend compte que Il a respecté le fait de pas se couper les cheveux pendant un temps. Il a respecté le fait de pas boire. On le voit, aucune histoire de Samson ne nous parle de qui, à un moment donné, il est bu. Par contre, il y a des choses qu'il a laissé faire dans sa vie. Il a vu une femme dans les Philistins, elle lui a plu, alors il a voulu se marier avec. La loi disait qu'il fallait pas se marier avec les femmes des Philistins. Et il a fait quand même. Il était consacré à Dieu sur certains points, mais il y avait la parole de Dieu qu'il ne considérait pas. Il n'avait pas le droit de toucher un animal mort. Il s'est approché de l'animal mort. Il a même pris le miel qui était dans le lion. Si vous lisez l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Un lion qui, avec la force de Dieu, il avait une ardeur qui venait de Dieu, qui a pu le déchirer en deux. C'est incroyable. Faut le faire quand même. Mais même les Philistins se disaient, mais d'où lui vient sa force? Des fois, dans nos histoires, dans les dessins que l'on fait à l'école du dimanche, on a l'impression que Samson, c'est Rambo ou Schwarzenegger, un gars hyper baraqué. Mais non, les Philistins disaient, mais d'où lui vient cette force? Il a l'air comme tout le monde, c'est un gringalet. Moi, je l'imagine tout maigre, Samson. Tout gringalet. Mais d'où lui vient cette force? Sauf qu'il avait un vœu. Il s'était pas coupé les cheveux depuis son enfance. Il ne buvait pas de vin. Et le Seigneur lui donnait sa force. Mais petit à petit, il a laissé... Alors, je pourrais faire un listing rapidement. Il a laissé dominer les choses de son cœur, son ego. Il a laissé les désirs sexuels, il a laissé les désirs de nourriture, prendre le miel dans le cadavre du lion. Il a laissé les désirs de richesse, il voulait gagner des habits, alors il a fait une devinette. Au lieu de s'humilier devant Dieu en disant « Seigneur, pardonne-moi, j'ai quand même fait un péché », il en a fait une devinette, un jeu pour s'enrichir. Est-ce que c'est une bonne chose? Une fois que sa femme, si vous lisez l'histoire, elle a titillé pendant une semaine pour qu'il révèle la devinette, comme ça elle a pu dire aux Philistins, les invités du mariage, lui il s'est mis en colère, il est parti, justement quand il a été pressé, ce qui est ressorti de Samson, souvent ça a été de la colère, souvent ça a été de la méchanceté, ça a été de la vengeance, je vais les traiter comme ils m'ont traité. Et même si pendant un temps la force de l'Éternel était sur lui, à un moment donné il est allé trop loin. À un moment donné, il a perdu. Il a révélé son secret à la fameuse Dalila. Dalila, vous savez ce que ça veut dire? Celle qui est frêle. Celle qui est fragile. Une femme qui semble fragile a réussi à venir à bout du Samson, le soleil, le petit soleil envoyé par Dieu pour délivrer les Philistins. Pourquoi? Parce que le petit soleil, petit à petit, il est sorti du cadre où il devait être pour amener la bénédiction. Et il s'est retrouvé les yeux crevés, en train de tourner en rond dans la prison de l'ennemi. Quelle image! Quelle image cela représente pour les personnes qui manquent de maîtrise d'eux-mêmes. Alors je voudrais très rapidement vous parler de ce qui vient équilibrer la maîtrise de soi, c'est l'ardeur. Samson se rend compte que jusqu'au bout il a gardé l'ardeur. Jusqu'au moment où Dieu l'a abandonné, entre guillemets, parce que c'est lui qui l'avait abandonné avant. Jusqu'au moment où la force de Dieu l'a abandonné, il avait de l'ardeur. Il était capable, avec une mâchoire, de tuer des milliers de Philistins. Il a amené quand même la délivrance dans le pays d'Israël. Mais dans son cœur, il n'a pas veillé. Et ça a fait beaucoup de dégâts. La maîtrise de soi doit être associée à l'ardeur. Et l'ardeur, la force, l'entrain que l'on met à faire les choses pour Dieu, doit être associée à la maîtrise de soi, la sagesse, la prudence. C'est comme le feu. Tout à l'heure, je parlais de l'eau, mais le feu, c'est la même chose. Le feu, c'est une bonne chose quand c'est canalisé. Le feu dans la cheminée, c'est super. Le feu sous la casserole, c'est super. Mais le feu dans la maison, c'est pas terrible. Le feu dans la forêt, c'est mortel. Ça peut faire tellement et tellement de mal. Ça a besoin d'être canalisé pour amener une bonne chose. Jésus a dit à un moment donné, on ne met pas une lampe, et on pourrait le traduire aujourd'hui par un flambeau, par une torche, avec le feu, on ne met pas une lampe sous le boisseau. Le boisseau, c'était l'ustensile qui servait à mesurer le grain. On ne met pas une lampe sous le boisseau, ni sous le lit. Mais on la met en évidence dans la maison pour qu'elle éclaire tout le monde. Frères et sœurs, Jésus a dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Comment est-ce que notre lumière brille aux yeux des hommes? Est-ce qu'elle brille timidement? Le Seigneur nous invite à briller avec ardeur, à montrer aux hommes sa faveur, son amour, sa compassion. Le Seigneur nous invite à être pas de ceux qui laissent le travail les enfermer pour ne pas obéir à ce que Dieu veut qu'ils fassent, qui ne laissent pas non plus la paresse, parce que le lit représente la paresse et le boisseau représente le travail, qui nous empêche de faire briller cette lumière. Si vous lisez les proverbes, vous vous rendez compte qu'il y a un beau portrait qui est dressé souvent du paresseux. Le paresseux, il est dit par exemple, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents, on pourrait dire les hommes ardents, sera rassasiée. Vous voulez être rassasié? Vous voulez que la force de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit sur vous? Alors aimez Dieu avec ardeur. Servez Dieu avec ardeur. Obéissez à Dieu avec ardeur, avec maîtrise de soi aussi, mais avec cette ardeur qui fait qu'il y a une intensité dans notre cœur, qui donne envie aux gens qui nous écoutent d'en savoir plus sur la foi. Je termine avec cet exemple de ce qui s'est passé la semaine dernière, qui nous montre quelqu'un qui a choisi d'être à la fois maître de soi et à la fois plein d'ardeur et qui a amené la bénédiction. Vous savez que la semaine dernière, on a eu ce concert à l'abbatiale de Moissac. Et donc les jeunes de Toulouse s'étaient préparés. La veille, ils étaient allés à Tarbes. Ils avaient fait la même chose, le même programme dans l'église de Tarbes pour aussi servir cette église. Et ils sont rentrés tard le soir, j'en ai eu quelques-uns, le pasteur je crois c'était 11h30, ils venaient tout juste de finir le temps de rentrer, en fait c'était compliqué, mais ils s'étaient engagés à venir et ils sont venus le dimanche après-midi, et il y a en particulier une jeune fille dans les choristes qui était là, qui le samedi soir avait vraiment à cœur de prier pour Moissac, et alors qu'elle était fatiguée, elle a prié, et pendant la nuit, alors qu'à un moment donné quand même elle s'est couchée pour vraiment se reposer, le Seigneur l'a réveillée, le Seigneur lui a mis comme une parole dans son cœur, et lui a dit « Demain tu vas parler à une personne qui est malade ». Alors elle a dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire et comment ça va se passer ?» Mais elle n'avait pas de détails, alors pendant toute la journée, il y a eu la préparation, il y a eu tout ce qu'il faut, l'installation. Mais elle zioutait à savoir un petit peu qui allait être la personne. Jusqu'au début du concert, elle savait pas, aucune idée. Pendant le concert, elle regardait toute l'assistance pour chercher s'il y avait une personne particulière. Qui c'est, Seigneur, montre-moi qui c'est, à qui je dois parler de ta part. Elle ne savait pas. Et puis à un moment donné, son regard a croisé une dame qui était en pleurs. Et leurs regards se sont accrochés. Et là, le Seigneur lui a montré que c'était cette dame. À la fin du concert, cette dame qui était en pleurs, touchée par les chants, touchée par le beau message qui a été donné, donc elle commence à discuter avec cette jeune fille. Cette jeune fille donc commence à l'écouter, savoir quels sont ses soucis. Jamais elle lui parle de maladie. Jamais elle lui parle comme quoi elle souffre de quoi que ce soit. Elle lui parle de sa famille, de ses enfants, de son travail, mais pas de la maladie. Alors elle se dit, mais comment je vais faire pour lui parler? Seigneur, j'avais l'impression que c'était une personne malade à qui tu m'envoyais. Puis elle a l'idée de simplement lui raconter ce qu'elle vient de vivre quelques mois avant. Vous savez, madame, il y a quelques mois en arrière, j'avais des problèmes graves de l'estomac. Et j'arrivais plus à dormir correctement. Je prenais des médicaments, mais il n'y a rien qui faisait. Et puis, on a prié à l'église. Et là, ce qui n'a pas pu se soigner par les médicaments a été totalement soigné. Je n'ai plus rien grâce à la prière. Et la femme qui est là, la regarde et se met à pleurer encore un peu plus. C'était la semaine dernière que ce que je vous parle. Là, c'est pas une histoire lointaine. Et la femme lui dit, mais vous savez, jeune fille, ce que vous avez eu, c'est la maladie que j'ai actuellement. Comment est-ce que vous pouvez me parler de ça sans savoir ce que je vis? Et la dame lui dit, mais c'est simple. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui vous connaît, qui a permis que je puisse vous parler, qui a permis que cette nuit je sois au courant, que j'allais parler à quelqu'un. C'est Dieu qui avait préparé tout ça. Et Dieu a préparé tout cela parce que cette jeune fille, malgré la fatigue, malgré toutes les excuses qu'elle aurait pu trouver, elle a pris un temps pour prier le soir, samedi soir. Et le dimanche soir, elle a pris l'ardeur, le courage qu'il faut pour aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas et lui rendre témoignage de la part du Seigneur. Il faut de l'ardeur, non? Il faut du cran. Le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous donne du cran. Le Saint-Esprit donne la force pour que nous puissions être une bénédiction. Et je ne sais pas où c'est qu'elle est cette dame, mais ce que je sais, c'est que Dieu lui a parlé personnellement, que Dieu veut lui faire du bien. Dieu veut faire de même avec chacun d'entre nous, si nous laissons son esprit dominer dans notre vie. Si nous laissons l'esprit de Dieu prendre possession de tout ce que nous sommes, que nous nous livrons dans le Seigneur. Il est dit que celui qui perdra sa vie la regagnera. Mais celui qui gagnera le monde, il perdra sa vie. Et nous voulons être de ceux qui gagnent la vie éternelle. Non pas qu'on la mérite, mais qu'on la diffuse autour de nous parce que le Seigneur nous la donne avec grâce. Fermons les yeux quelques instants. Je voudrais prier. Je voudrais m'adresser à des personnes ce matin. Ces hommes, ces femmes qui veulent avoir cette foi équilibrée. Ces hommes, ces femmes qui veulent être équilibrés entre la maîtrise d'eux-mêmes, la maîtrise des pensées, des paroles, des actes, et puis aussi l'ardeur. Le Seigneur nous invite à être de ceux qui ont du zèle et non de la paresse, à être fervents d'esprit, à le servir, lui, le Seigneur. Que son Saint-Esprit puisse être répandu dans nos cœurs encore maintenant. Merci Éternel, parce que dans ces instants, nous croyons que tu es le Dieu qui nous connaît parfaitement et qui vient nous donner exactement ce dont nous avons besoin. Tu vois, celui qui a besoin, Seigneur, de retrouver l'ardeur dans son cœur, qui a perdu l'entrain, la joie de vivre. Tu es le Dieu qui renouvelle tout cela quand on laisse ton Saint-Esprit habiter. Tu vois, celui qui peut-être est devenu paresseux petit à petit, il s'est laissé prendre par les choses de ce monde, paresseux pour les choses de la foi, mais actif pour les choses de ce monde, Seigneur, que là aussi tu viennes rétablir un équilibre. Seigneur, que tu puisses venir libérer, soumettre celui qui est encore esclave d'un penchant, d'une passion qui le maîtrise, dont il n'arrive pas, Seigneur, à s'en sortir. Ô Seigneur éternel, qu'il n'y ait pas l'indifférence dans le cœur de cette personne, mais qu'au contraire, il y ait la soif d'être libéré. Oui, ton Saint-Esprit nous donne la force de maîtriser notre cœur. Tu es le Dieu qui délivre de toutes les choses dont ce monde nous accable. Merci Éternel, merci pour ce que tu communiques dans ces instants. Je voudrais prier particulièrement pour certaines personnes. Je voudrais qu'on puisse vraiment garder les yeux fermés. Et si vous avez besoin de la prière, simplement levez vos mains maintenant.